Bonjour à tous.
Voilà, je suis Jean-Philippe, ça fait plaisir d'être là. Plaisir de vous revoir, il y a des nouvelles têtes. Ça fait plaisir aussi. J'espère qu'on pourra se rencontrer tout à l'heure. Quelle saison, hein, Thierry ? Quelle saison ? Entre grosse fatigue, miracle de Dieu en tout genre, nouveau ministère, on est un petit peu tous débordés, je dirais. Mais en fait, c'est aussi une saison qui est vraiment excitante. On sait qu'on est au début de quelque chose que Dieu est en train de faire, en tout cas avec Jeunesse en Mission. Ça serait un petit peu arrogant de dire que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau parce qu'on est arrivé. Je pense qu'on va participer à ce que Dieu fait, à ce qu'il a fait depuis le début des temps. Et puis on se réjouit qu'on puisse trouver notre place avec les églises locales. Une des choses que je vois beaucoup dernièrement à Genève, c'est qu'il y a une unité qui grandit entre les églises. Qui m'impressionne, et c'est vraiment que Dieu qui peut faire ça. Il y a quelques années en arrière, quand on a commencé à prendre contact avec les églises locales, il fallait parler presque à chaque pasteur différemment, puis il fallait éviter de mentionner qu'il y avait d'autres églises dans la ville. Et puis aujourd'hui, les pasteurs se retrouvent, il y a des pastorales, il y a Interjeunes à Genève avec 300 jeunes plus, qui regroupent énormément de groupes de jeunes qui se retrouvent. C'est des moments incroyables où l'esprit visite. J'ai vu une salle de ces jeunes où tous parlaient en langue. En fait, il y avait un temps de louange où tout à coup, c'était juste l'explosion du Saint-Esprit dans la salle. Et donc, Dieu est vraiment en train de faire quelque chose à Genève. Et puis, donc, nous, on se réjouit de faire partie de ça, de trouver notre place et puis de servir Dieu dans cette ville. Donc, oui, priez avec nous pour qu'on puisse passer le cap du démarrage de Jeunesse en Mission. C'est toujours difficile, ça prend toujours beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Mais on est là, on est encore là. Toujours là. Bon, moi ce matin, j'avais à cœur de vous parler un petit peu du discipulat. Dernièrement, on était dans une réunion de pasteurs justement, et puis on avait Jean-Luc Traxel, peut-être que certains d'entre vous connaissez son nom, qui a une grosse vision d'évangélisation de l'Europe, qui va amener une conférence à Genève. Et puis une des questions dans la salle, qui d'ailleurs venait de l'Église catholique, disait, mais si les gens viennent à Christ, qu'est-ce qu'on en fait ? Et puis Jean-Luc était devant et il dit, écoutez, j'ai l'impression que nos églises évangéliques vers chez nous, ils n'ont encore pas trouvé le moyen vraiment de faire des disciples. Qu'est-ce qui fonctionne pour nous ? Comment est-ce qu'on le fait ? Pourquoi même est-ce qu'on le fait, quoi ? Parce qu'on veut voir des gens venir à Christ, c'est juste ? Ouais, moi j'ai envie de voir des gens venir à Christ, j'ai envie de voir des guérisons, j'ai envie de voir plein de choses, j'ai envie de voir que Dieu bouge. Mais qu'est-ce que vous faites quand tous les sièges qui sont vides tout à coup, ils se remplissent de gens qui sont nouveaux ? Et comment est-ce qu'on s'en occupe ? Qu'est-ce qu'on fait avec ? Alors une des choses qu'on a commencé à faire en travail justement avec Interjeunes, c'est qu'on aimerait déjà multiplier les leaders, parce que vous voulez que l'église grandisse, il faut qu'il y ait plus de gens qui soient capables de porter. C'est assez simple. Si vous avez une toute petite maison et puis que vous voulez la remplir, quand tout à coup elle est trop pleine, il faut faire grandir la maison. Et puis il faut des piliers qui puissent porter, donc il faut des nouvelles personnes. Et moi je crois que c'est la jeunesse d'aujourd'hui qu'il faut les former. Alors je crois qu'on est formé pendant toute notre vie jusqu'à la fin et qu'on sera toujours en formation d'ici jusqu'à qu'on ait fini. Mais plus on les prend jeunes, plus on a de chances de faire du travail. Vous savez quoi ? On était dernièrement dans une réunion de Jeunesse en Mission avec une vingtaine, une trentaine peut-être de responsables qui sont sur la Suisse romande. Et puis quelqu'un a posé la question, combien d'entre vous sont venus à Christ avant 18 ans ? C'était tous sauf une. C'est incroyable. Et qu'est-ce qu'on attend pour rejoindre la jeunesse ? Qu'est-ce qu'on attend pour former la jeunesse ? C'est difficile pour les gens qui ont 50 ans de venir à Christ et de trouver un chemin. C'est vraiment difficile, mes amis. Par contre, à 14 ans, il y a un moment de décision de vie qui se fait. C'est un choix de destinée. Je choisis ma destinée. Je choisis de partir à gauche avec Christ. Et là, il y a des choses qui se mettent en place que Dieu peut faire dans notre vie où il a le temps de faire les choses. Dans Jean 17, 4, on entend Jésus qui parle à son Père et qui dit « J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire ». Vous avez déjà pensé à ce verset ? Parce qu'en fait, il n'est pas encore mort sur la croix, là. C'était quoi l'œuvre que le Père lui avait donné à faire ? C'était de prendre 12 gugus qui venaient de nulle part, qui n'avaient aucune éducation, qui se détestaient les uns les autres, et de passer 3 ans avec jusqu'à ce qu'ils soient des disciples. Et donc, on voit qu'il y a l'appel clair de la mort à la croix de Jésus dans sa vie. Mais Jésus avait un appel qui était de commencer à former des disciples qui allaient porter sa mission au travers du monde plus tard. Et moi, je suis convaincu que c'est de ça dont il parle là. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Cette œuvre-là, elle est prête. Ton Saint-Esprit, il peut venir, il peut tomber sur eux maintenant. Ils sont prêts à porter et à construire l'Église. Et vous savez quoi, aujourd'hui, c'est nous l'Église. Et est-ce qu'on n'est pas appelé à faire des disciples? Est-ce qu'on n'est pas appelé à former des gens? Est-ce qu'on n'est pas appelé à suivre des gens? Dans la formation juive, il y a trois étapes. À 10 ans, ça s'appelle le Bet Sefer. Les enfants allaient à l'école et puis ils avaient appris la Torah par cœur. D'accord? Donc les 5 premiers livres, je vais vous montrer plus ou moins à quoi ça représente. Hein. Voilà. Donc à 10 ans, les enfants qui en avaient la capacité, ils avaient appris tout ça par cœur. C'est la Torah. Bet Sefer. D'accord? Et puis pour ceux qui étaient vraiment bons, à 14 ou 15 ans, ils avaient appris tout l'Ancien Testament par cœur. Attendez, parce que moi, à chaque fois que je le regarde, ça m'hallucine quand même. Est-ce que vous avez tous déjà lu l'Ancien Testament? <C'est ça. rire> Hein? D'accord? Et puis pour les meilleurs des meilleurs des meilleurs des meilleurs des meilleurs, ils passaient devant un rabbin, qui c'était la Bet Midrash, et puis ce rabbin allait le questionner, allait lui poser des questions, comment tu comprends la Bible, comment tu comprends les Écritures, est-ce que tu es capable de devenir qui je suis? Est-ce que tu es capable, dans la formation que je vais te donner, de penser comme moi, de marcher comme moi, de faire tout ce que je fais? Et puis pour les meilleurs des meilleurs des meilleurs des meilleurs, ils étaient choisis pour suivre un rabbin. Et le but de cette étude rabbinique, de cette formation avec un rabbin, c'était de faire tout, de devenir comme lui. Il devait devenir comme le rabbin, parler comme lui, enseigner comme lui. Il y avait des courants de pensée. Je veux que tu aies exactement mon courant de pensée. Je veux qu'il soit capable de faire ce que je fais. Et puis pour ceux qui rataient une de ces étapes, bah ils retournaient vers leur père, travailler à la pêche, dans les impôts, les docteurs. Mais l'appel le plus haut en ce temps-là, c'était de devenir un rabbin. Et donc, ce n'est pas très étonnant quand Jésus vient, qu'il est sur la plage et puis qu'il dit « Toi, suis-moi ». C'est déjà un, si ils sont en train de travailler, c'est qu'ils n'ont pas passé l'examen quelque part. Donc, ils n'étaient pas assez bons pour devenir rabbins, ils sont déjà retournés vers leurs parents, quoi. Et donc, le pêcheur qui est sur sa barque, ben, il ne sera jamais rabbin. Donc, quand Jésus vient et puis qu'il lui dit « Toi, suis-moi », vous avez l'impression qu'il est triste dans les Écritures? Non, lâche le filet, il part. Je me demande même s'il prend le temps de dire au revoir à son père, quoi. Mais ce que je trouve incroyable avec Jésus, c'est qu'il n'est pas allé chercher les meilleurs des meilleurs des meilleurs des meilleurs. Il est allé chercher les voleurs, les terroristes, puisque certains de ses disciples étaient réellement des gens qui faisaient des coups contre les Romains. Il est allé chercher les collecteurs d'impôts et les pêcheurs. Il est allé chercher sur la place du marché, quoi. Et je crois que Jésus nous dit clairement à ce moment-là, c'est pour tout le monde. Je ne désire pas les meilleurs des meilleurs. Je ne suis pas intéressé à tout ce que tu sais. Je ne suis pas intéressé à ce que tu saches la Bible par cœur, quoique je peux l'utiliser. Je suis intéressé à qui tu es, aujourd'hui, maintenant, et à ta disposition de cœur de me suivre et d'être transformé par mon Saint-Esprit. Il n'y a pas de peine perdue. Il n'y a pas de cause perdue. Chaque personne est importante. Chaque cœur. Chaque cœur brisé. Et quand vous découvrez qui sont les disciples, ils avaient certainement beaucoup le cœur brisé et du travail à faire. Je crois que Dieu nous appelle à être des disciples. Je crois crois que Dieu nous appelle à former des disciples. Et qu'est-ce que ça veut dire pour cette église en particulier? Je ne sais pas. À vous de le découvrir. Mais je suis convaincu qu'on doit former les gens, qu'on doit suivre les gens. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a enseigné les foules, ensuite il a pris les disciples, il les a enseignés en petits groupes, ensuite il les a pris personnellement et il les a enseignés personnellement. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a passé 3 ans de sa vie non-stop avec eux. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a donné sa vie pour eux. Il y a un coût, il y a toujours un coût. Il y a toujours un coût. Et le coût des disciples, il peut être élevé. Parce que est-ce que ce n'est pas ça finalement, le plus grand amour, de mourir pour ses amis? Et à la fin de son ministère, avec les disciples, il les appelle ses amis. Est-ce qu'on étudie notre rabbin aujourd'hui? Est-ce qu'on prend du temps dans la parole pour étudier Jésus, son caractère, qui il est, qu'est-ce qu'il faisait, pourquoi il le faisait, comment il le faisait, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui dans cette société, dans notre église, avec nos amis, nos familles? Est-ce qu'on passe du temps avec lui? Ça pour moi c'est clé. Lui devenir un disciple de Jésus, il est temps de passer du temps avec lui. Il est temps de le reconnaître dans tout ce que vous faites. Et pas juste quand on prie ou qu'on lit la Bible et dans un temps de louange. Parce qu'il est là maintenant. Mais il est là maintenant dans une heure. Et il est là maintenant demain. Au travail ou à nos études. Est-ce qu'on est prêt à passer du temps avec lui? Vous avez déjà vu ces vieux, vieux couples? Vous avez l'impression qu'il n'y a plus qu'un seul caractère, vous savez? Quand ma femme m'appelle, je sais exactement qui me parle. Parce que je connais sa voix, on passe du temps ensemble. Est-ce qu'on lit la Bible? Est-ce qu'on étudie la Bible? Un des projets qu'on a avec Thierry à Genève. Comment tu dirais ça en français? Increment Bible. On aimerait faire partie d'un mouvement qui pousse les gens à passer plus de temps dans la Bible. Scruter la Bible. Ouais. Augmenter cette passion pour la parole en soi. C'est la parole de Dieu, quoi. Est-ce qu'on connaît Jésus personnellement? Est-ce qu'on le connaît assez pour lui obéir quand il nous demande de faire quelque chose? Des fois, c'est difficile. Mais je crois que cette obéissance fait partie de cet engagement qu'on a envers lui. Et ce qui est incroyable avec Dieu quand on s'engage, c'est que lui s'engage à nous. C'est une alliance. Je m'engage à toi. Tu t'engages à moi, car je serai avec toi jusqu'à la fin. Je serai là pour te soutenir. Vous savez, quand les rabbins ils prenaient un nouveau disciple, en fait, le disciple allait se mettre sous le joug du rabbin. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit de ce joug? Il est doux et léger. Ça, c'est l'engagement de Christ envers nous. Ce n'est pas quelque chose de difficile que je te demande à faire. C'est doux, c'est léger, c'est là qu'il y a la paix. Je ne suis pas là pour te forcer à lire et à mémoriser 600 lois. Suis-moi, marche avec moi. Il y avait une expression qu'ils utilisaient en ce temps-là. De nouveau, quand quelqu'un entrait dans la formation rabbinique, Et les gens les envoyaient, on disait que tu sois couvert de la poussière de ton rabbin. Parce que les routes étaient poussiérées et que le rabbin marchait devant. Et donc quand le rabbin avec ses sandales marchait, la poussière couvrait les disciples qui étaient derrière. Mais c'est cette représentation d'être couvert de qui il est sur toi. Est-ce que vous avez envie aujourd'hui d'être couvert de la poussière de Christ? Et je crois que c'est notre encouragement aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on fait des écoles de disciples à Jeunesse en Mission. Notre désir, c'est qu'à la fin d'une formation, la pensée de l'étudiant soit transformée en celle de Christ et qu'on en voit la différence dans les actions. Alors c'est un début, hein, 6 mois d'école. C'est une porte ouverte sur une vie de discipula. Mais c'est ça qu'on veut faire. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut nous rappeler que chacun d'entre nous sommes des disciples. Que chacun d'entre nous avons la capacité, dans notre engagement à lui, à le suivre et à devenir comme lui et à faire ce qu'il faisait. Et plus encore. Et que ça, c'est notre engagement envers Christ. Lui, il nous a appelés, il est venu à nous par son amour, il a touché nos cœurs, ça nous a permis d'être sauvés aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec notre capacité, c'est que de la grâce. Merci Seigneur. Par contre, le choix de le suivre aujourd'hui, il est à moi de le faire. Combien est-ce que je vais donner pour ça? Combien est-ce que je suis prêt à lâcher pour ça? Une famille d'amis ont lâché tout ce qu'ils avaient. Ils avaient des business, une maison. Ils ont tout laissé pour partir. 4 enfants. J'ai vachement de respect parce que c'est difficile. Et je ne sais pas si Dieu nous appelle à ça aujourd'hui, chacun d'entre nous. Mais finalement, est-ce que ça a de l'importance? Parce qu'on sait que ce qu'il a, c'est le mieux pour nous. Parce qu'on n'est que des voyageurs sur cette terre. La vraie récompense, elle est là-haut. Ok, vous avez encore 1 heure ou 2, là? C'est dangereux, ça. Hein? Je peux continuer à prêcher cet après-midi? Je crois que je vais terminer avec ça parce que c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit. Puis c'est pas du tout prévu. Mais j'ai été impressionné par la capacité à votre équipe pastorale tout à l'heure pendant la louange à gérer des choses qui se passaient dans la salle. Et j'aimerais que vous sachiez que vous avez été bénis par leur capacité à gérer les choses. Mais aussi je crois qu'ils ont beaucoup à vous donner à chacun d'entre vous. On peut être un disciple que quand on a été disciple nous-mêmes pour faire des disciples qui feront des disciples, qui feront des disciples, qui feront des disciples. Et vous avez autour de vous des gens qui ont, je pense, réellement cette capacité. Et je crois souvent qu'être un disciple, parce que bah ouais, forcément il y a Jésus, il y a la Bible, il y a le Saint-Esprit, mais il veut utiliser la communauté qu'on a autour de nous. Et souvent, je me suis mis devant Dieu en priant, en disant, Seigneur, qui est-ce qui va faire de moi un disciple dans cette saison? Qui est-ce que je vais suivre, que tu vas mettre devant moi, qui va m'apprendre ce que tu veux m'apprendre maintenant? Et j'aimerais vous encourager à faire ça. Peut-être dans vos groupes de maison, peut-être quelqu'un de l'équipe pastorale. Ça ne veut pas dire que la personne va dire oui, mais peut-être que vous devez prier, vous dire, Seigneur, avec qui est-ce que je vais m'accrocher pour continuer de grandir aujourd'hui? Qui est-ce qui fait de moi un disciple? Et nos jeunes, est-ce que c'est Federer, Ronaldo ou Nike ou Madonna? Et c'est triste, mais c'est la vérité, quoi. Parce que si on ne fait pas d'eux des disciples, quelqu'un d'autre le fera. Il y a toujours quelqu'un qui a une influence sur nos vies. À nous de choisir qui on veut. Donc j'encourage chacun d'entre vous ici à vous mettre devant Dieu, à dire, c'est quoi le pas pour moi aujourd'hui d'être un disciple? À qui est-ce que je vais demander de me suivre dans cette saison? Je vais prier. Seigneur, je vais te remercier parce que nous étions tous brisés et nous le sommes toujours tous. Et pourtant, tu nous as choisis. Pourtant, tu nous as appelés. Pourtant, par ta grâce, tu es venu vers nous. Tu as touché nos cœurs. Et on a senti ton amour ce matin. Il n'y a pas de doute. Tu es vivant, même si on ne croit pas en toi. Et Seigneur, sur ce thème d'être un de tes disciples aujourd'hui, viens nous parler. Viens toucher nos cœurs. Viens nous montrer où on en est. Viens nous montrer qui fait des disciples de moi-même ou de nous-mêmes aujourd'hui. Révèle qui a cette influence sur ma vie aujourd'hui. Et aide-nous à nous réaligner avec toi pour qu'on puisse être des disciples de Jésus-Christ qui sont transformés en qui tu es. Que tu puisses faire ton travail sur cette terre et dans ce monde. Et pour qu'on puisse faire des disciples ensuite, qui feront des disciples, qui feront des disciples. Seigneur, on veut croire à la croissance de ton Église. Parce que c'est toi en nous qui attire les gens. Viens être vivant. Viens vivre en nous. Viens prendre ta place. Seigneur, on désire plus de toi aujourd'hui. On désire de ta transformation dans nos pensées, dans nos cœurs. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous juste qui veulent vous lever ou faire une prière assis là où vous êtes. Si vous désirez entrer dans ce processus de discipulat avec Jésus aujourd'hui, bah dites-le lui. Demandez-lui qu'il mette les choses en route.